Parlons-nous.
On va se gêner jusqu'à 18h. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Sylvie Boulet, Jean-Marie Bigard. Je voudrais pas qu'on dérange Stevie qui, depuis une dizaine de minutes, oui, vous ne l'entendez plus.
Il est mondialement absent.
Il faut quand même que je vous explique ce qu'il fait. Il est plongé dans son agenda Vuitton.
Ah. Et il vient de découvrir le monde.
Oui, il regarde une carte. Et alors, je vous ai surpris, là, pendant la pub, à regarder des pays, puis vous faisiez... pas celui-là. Qu'est-ce que vous faisiez?
Ah non, je suis la tête dans un projet...
Un projet de voyage, un projet de mondialisation.
Non, je regarde.
Vous regardiez certains pays, puis vous faisiez...
Il statuait sur leur entrée ou non dans l'Europe.
Ah oui, si je suis président.
Mais il y a un truc qui me lâche jamais, et c'est ce que j'avais dans ma chambre quand j'étais gamin, c'est un globe. Je passerai mon temps à regarder les cartes de géographie, les trucs, ça me passionne. Inexplicable, et quand je m'ennuie, je regarde ça et... Et je voyage. Voilà.
C'est bien, ça, un atlas.
Il s'ennuie avec nous, quoi.
Non, c'était pendant la pub.
Ouais. Et oui, c'est l'enfant accaparé par les belles images, c'est ça.
C'est chouette, hein.
Ouais,
Caroline Diamant, elle pensait à ce soir, parce que ce soir, ça va être la fête à la maison. Parce que non seulement c'est le nouvel an juif, mais en plus, c'est votre anniversaire de mariage. Alors là, bon anniversaire, Caroline. 13
Merci.
Ans.
Merci.
Ah non.
Happy birthday.
Alors là, votre mari, il vous fait quoi dans ces cas-là pour l'anniversaire?
Devine.
Il fait quoi?
Devine, je dis.
Pas du tout, figurez-vous qu'on ne fait rien. Je déteste fêter les trucs.
Oh, c'est pas drôle. Petite surprise à la maison ce soir en rentrant quand même.
Non, j'aime pas les surprises.
Là, t'as une petite tenue sexy.
On dirait une contrepartie. Je déteste fêter les trucs.
Oui, c'est ça. Stevie a raison. Il y a des petits magasins de lingerie féminine sexy là autour de Repin. Vous pouvez peut-être.
Ou masculine d'ailleurs.
Oui, voilà.
Mais oui, d'abord, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette version machiste? Pourquoi c'est pas lui qui irait chercher des sous-vêtements sexy pour homme? Pour me satisfaire.
Parce que connaissant ton mari, je suis sûr qu'il a des petits hauts très. Enfin, des petits bas très sexy.
Non, mais moi, j'ai dû mettre un slip sexy pour homme.
Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, ils étaient très sexy en tout cas.
Ouais. Mettre un slip sexy pour un homme, c'est embêtant parce que dès que t'as la gaule, t'as le bazar qui sort. Oh. C'est difficile de contenir, il faut vraiment. Faut trouver un truc extensible et tout.
Oh là, mais c'est abusé ça.
Non, mais c'est vrai, faites un petit effort pour ce soir.
Qu'est-ce qu'il y a?
Perdez 20 kilos, je sais pas, faites un truc.
Je trouve ça d'un goût.
Le truc super réalisable.
Je voudrais. Non, mais ne ris pas, ces bêtises.
Ça me fait rire.
Je sais que ça
me
fait
rire.
C'est pas pour les 3 sous, mon mari. C'est pas pour les 3 sous qu'il te donne toutes les semaines, tu vas te laisser insulter, ma chérie. Non, mais écoutez-moi. Est-ce que vous connaissez, vous qui vous y connaissez mieux que moi, car il y a ici quelques femmes, d'autres, est-ce qu'il y a des dessous sexy pour les hommes? Les dessous sexy pour les femmes, on en voit tout le temps. On voit sans arrêt, je veux dire, la littérature et le cinéma sont pleins de dessous, de culottes, de porte-jartelles, de soutien-gorge pigeonnant. Mais pour les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des slips sexy?
Oui.
Ça ne peut pas être un soutien-gorge. Hein, c'est forcément nous, que le slip qui peut être sexy. Hein.
T'as des marques?
Alors là, tu m'as cherché, tu m'as trouvé.
Il a raison, Jean-Marie.
Oui, mais c'est évident, oui. Est-ce qu'il y a des choses sexy? Est-ce qu'il y a des slips sexy?
Il y a des hommes sexy.
Bravo, Christine,
oui,
j'allais le dire.
Il y a des hommes sexy, j'en sais
quelque chose. Non, il y a quelques caleçons ou quelques petits boxers qui sont un peu plus fins, limite transparents.
Des boxers quoi, les poids plumes
qui sont un peu sexe par rapport à un slip kangourou classique ou par rapport aux caleçons que Jean-Bernard Hébé vous ramène. Oui, il y a plus sexy. Par Pierre Bénichou.
Comment savez-vous qu'Hébé ramène des caleçons?
Parce qu'il les lui donne ici en direct à la radio.
Et donc, si votre question c'est est-ce qu'il y a des choses plus sexy que ce que je porte?
Mais non,
Pierre.
Mais pas du tout, espèce de grotesque petit paysan. je voudrais te dire que peut-être que moi-même je ne suis pas sexy.
Et
je
c'est pas ce que j'ai dit.
Et je ne prétends pas l'être, je ne prétends plus l'être, mais ce sont ces boxer shorts qui ont fait les Américains les plus sexy. C'est-à-dire, c'est les trucs de chez Brooks que portaient les Kennedy, que portaient les gens. Et il n'y a plus que les garçons de bain dans les établissements que vous fréquentez au Faubourg Montmartre la nuit, où les types sont avec des trucs moulants, trucs comme ça.
Bien sûr, si.
Je vous parle d'un boxer shirt, Pierre Bénichou.
Je vais enlever mon pantalon si on continue.
Moi, je suis incapable de mettre un boxer. caviar. Un caviar.
Ah,
je
ne
veux mettre que des slips. Ah ouais, moi, non, j'aime bien vrai, que tout soit collé au plafond, parce que sinon, ça se balade. Ah, c'est pas du tout agréable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours un testicule un peu plus gros que l'autre. C'est pour éviter qu'il s'entrechoque, qu'il ne soit pas à la même hauteur.
C'est ce que dit le président
Chirac. C'est que c'est la vérité. C'est vrai, Durie qui est un peu plus basse. Un peu plus haute pour éviter qu'elle se tape comme les boules. C'est tac, 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 tac. Tu sais que
il y a que toi qui remarque ça. Hein.
Non mais je ne sais pas ce qui se passe avec Christine O'Crête. Ou elle est folle amoureuse de Jean-Marie Bigard, ou elle espère faire sa première partie au prochain Stade de France.
Ça doit être ça. C'est sûrement ça. Non mais c'est une fameuse formule de notre président bien-aimé.
Ouais, ça m'a bougé de s'en remettre l'autre.
Mais exactement. Il faut connaître ses classiques, Caroline.
En tout cas, pour un anniversaire, ce qui fait le plus plaisir, c'est un petit Viagra. Parce que c'est ce que disent les pharmaciens, en fait. Quand tu as essayé ça une fois, tu dis c'est bien pour faire plaisir. Parce que des fois, on est un petit peu lassé, on a fait tellement de fois la même chose avec sa femme. Et ben, quand tu es sûr déjà que tu as le gourdin pour toute la soirée, ça permet des fois de faire plaisir.
Mais mon mari n'a pas besoin de Viagra.
Oui, tu sais pas si. Peut-être qu'il en prend en cachette. Hein. T'as pas trouvé, par exemple, qu'un soir, il était particulièrement en forme? Tu fouilleras dans ses poches,
oh,
hein, tu
verras
si
ça
se trouve. Il avait pris du Nic à fond 250 mg. Du Rocco Siffredine 500.
Non, mais je trouve ça triste de faire l'amour juste le soir de son anniversaire de mariage. Je n'aime pas les choses qui sont préméditées et obligées. Si ça se vient dans l'instant, ça viendra. Et sinon, ça n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de fêter un anniversaire.
Si c'est tous les 3 octobre, c'est dommage de le laisser passer.
Ouais.
Non, le soir de son anniversaire, c'est un peu triste, mais c'est quand même moins triste que la chanson de l'autre, qui disait le soir de mes funérailles, ça c'est encore pire, ça. Danser sur moi, danser sur. Comment il s'appelait ?
Claude Nougaro.
Ouais. Très belle chanson d'ailleurs.
Danser sur moi, danser sur moi. C'est ça ?
Le soir de mes funérailles.
Ben, quelqu'un qui fêtera pas son 13e anniversaire de mariage, c'est Tony Parker, puisque vous auriez pu nous le raconter, ça, Stevie, vous qui l'avez rencontré.
Mais c'est à cause de Stevie ?
Ben, parce qu'il rencontre Stevie la semaine dernière.
Et il quitte
Eva Longoria, d'après la presse, hein, ce n'est peut-être qu'une rumeur, pour Sonia Roland, qu'on avait déjà mariée avec le prince Albert la semaine dernière. Hein. Alors, il faut quand même se méfier de tout ce qu'on raconte dans les journaux.
Tous les râteliers.
Alors, en tout cas, Sonia Roland, l'ex-Miss France, qui en plus s'appelle Léa Parker à l'écran, puisque c'est le rôle qu'elle interprète sur M6. Donc Léa Parker et Tony Parker réunis peut-être dans la vie. Et Télé 7 jours, en fait, les avait réunis pour une photo commune il y a 15 jours. Et ce serait comme ça que l'amour serait né.
Oui, parce qu'elle est marraine de l'équipe des Bleus, non ?
On se connaît pour une photo commune et puis paf, voilà, on reste sur la photo.
Bah, regardez François Hollande et Nicolas Sarkozy pour la photo de match. Ils se quittent plus depuis, il paraît.
C'est fini.
Mais enfin, bon, vous n'avez pas raconté tout ça, Tony Parker ?
Non.
Il n'a pas vu une fille qui l'attendait dans les vestiaires.
Je crois pas qu'il y avait Sonia Roland, je crois pas qu'elle était là.
Je suis
là.
Contente qu'il ait quitté l'autre.
Ah mais oui, pourquoi ?
Parce qu'il avait quitté sa petite fiancée avec laquelle il était pendant 5 ans et avec laquelle il devait se marier pour cette actrice américaine plus connue. Alors je suis bien contente qu'il l'ait plantée à son tour, si c'est le cas.
Mais il n'arrête pas, le mec. Hein.
Parce que cette petite jeune
donc
fille française...
Donc t'es contente que les hommes fassent souffrir les femmes, quoi, globalement.
Non, au contraire, je suis contente de la vengeance pour cette petite jeune fille française qui était amoureuse de ce Tony Parker, qui était inconnu, qui était pauvre, et qui, le jour où il a été connu et riche, l'a lourdé pour une star hollywoodienne. Donc elle a sa revanche aujourd'hui. C'est à la star hollywoodienne d'être lourdée.
Il largue pas la star hollywoodienne pour une petite inconnue non plus. Hein.
C'est vrai, pas pour ça qu'il va lui revenir, mais... Ça doit faire chaud au cœur de cette jeune fille qui avait été conduite.
Vous avez la vengeance mesquine, je trouve.
Oui.
Je suis très rancunière.
C'est ça,
comme moi.
Vous êtes très rancunière aussi, vous ?
Oui.
Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Serge Liadeau pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge.
Bonjour mes chers collègues.
Alors aujourd'hui c'est un cas et même 3 cas intéressants je crois.
Oui, ben la saison dernière on avait déjà étudié une comparaison entre une chanson de Jennifer Chouboup qui évoquait les riffs des années 60 et une chanson d'Axel Red, Ma Sensualité. Et je me suis aperçu pendant les vacances qu'en fait, ces chansons-là étaient toutes les deux les filles, ou disons les clones, d'une chanson de Lenny Kravitz qui s'intitule « It ain't over till it's over », ce qui signifie, je crois, « c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Ça veut dire donc que Jennifer aurait un peu copié Axel Red, qui elle-même aurait un peu copié Lenny Kravitz.
C'est ça, c'est la chronologie, oui.
Alors, Lenny Kravitz, Axel Red et Jennifer. Effectivement, tout ça se ressemble. Alors, comme on disait pendant qu'on écoutait tout ça, certes, Jennifer a un peu copié Axel Red, certes, Axel Red a un peu copié Lenny Kravitz, mais on a, à ses débuts, beaucoup accusé Lenny Kravitz d'avoir accusé Stevie, d'avoir copié lui Stevie Wonder. Alors,
oui, et pas mal John Lennon aussi.
Alors, peut-être qu'il faudrait remonter, ça va être une chaîne sans fin.
Mais oui, moi, je suis sûr qu'à l'origine, il doit y avoir une seule chanson qui est la mère de toutes les chansons.
La mère. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Bravo, oui, Jean-Marie.
Bah oui, comme Julio Iglesias qui a piqué à Jean-Jacques Debout Bécassine.
Ah bon ?
Ah oui, c'est ça.
Bécassine, même note. Bécassine, c'est ma cousine. Vous, les femmes. Non, c'est les mêmes notes. Tu le fais à l'envers, ça fait Bécassine. J'aime ma cousine. Tu vois ? C'est les mêmes notes.
Bon, alors, vous allez nous retrouver ça aussi. Alors, on écoutera et on vérifiera pour Bécassine.
Oui, c'est vrai, elle est en préparation, elle est sur l'établi.
Ah bon ?
Bécassine est sur l'établi ?
Elle était indienne avec c'est la chanteuse Bibi, non, qui faisait Bibi, tout doucement. Qui était, ouais, exactement la même musique que l'été indien.
Oui, c'est ça. Ben, ça, on a dans les best-of de l'an dernier. Ça.
Lui piquait pas, ouais, son boulot, Jean-Marie. Ah, oui. Il a sa petite chanson flash, Serge Gilliado.
Oui, elle est prête.
Allons-y.
Ce matin, vers 8h, une radio d'État diffusait une chanson que je connaissais pas. Un truc pas formaté, un de ces bijoux comme on entend quand il y a le programme minimum. Mais comment pourrait-on découvrir des talents s'il n'y avait pas une bonne grève de temps en temps? Comme quoi, il y a des fois où le service public, quand il ne travaille pas, rend service au public.
Assez joli. À demain, Serge Liado.
Ouais, salut.
N'oubliez pas d'échanger vos billets de 50 francs. Moi, j'ai été surpris en lisant ça, oui, ce matin dans le Parisien. Alors, je pensais que c'était foutu, oui, déjà. Mais non, il vous reste 2 mois pour échanger les anciens billets de 50 francs Quentin de la Tour contre des euros. La Banque de France a publié hier un communiqué invitant les derniers détenteurs de ces coupures lancées en 1976. Ils étaient beaux, d'ailleurs, ces billets de 50 francs. On les aimait bien. Ils étaient bleus, hein. C'est, oui, les billets bleus.
C'est que les billets de 50?
Ben non, c'est... parce qu'après, il y aura encore d'autres dates.
Billets de 100 et les billets de 500?
Les 500 francs, les Pascal, vous aurez jusqu'en...
Les Pasco.
Vous aurez jusqu'en 2007 pour échanger les Pascal. Les 200 francs Montesquieu jusqu'en 2008. Les 100 francs de la Croix jusqu'en 2009. Les 500 francs Curie, pareil, ainsi que les Gustave. 2012 même, les 20 francs Debussy jusqu'en 2012. Les 50 francs Saint-Exupéry jusqu'en 2012. Là, il s'agit bien des 50 francs Quentin de la Tour. On n'est plus que 2 mois. Et vous savez combien il en resterait en circulation? Comment on peut savoir ça? Moi, c'est ça qui m'épate. Il reste actuellement dans les bas de laine et autres fonds de tiroir, l'équivalent de près de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros en billets de 50 francs.
C'est énorme.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas été brûlés? Est-ce qu'ils sont pas disparus?
Ils sont brûlés, des gens qui ont caché leur argent, qui meurent, et puis personne ne sait où est la cachette.
Hein. Ouais, ou dans des comptes en Suisse.
Faut qu'on cherche ça, faut qu'on cherche.
Dans les comptes en Suisse, que t'es bête. Dans les comptes en Suisse, tu mets pas de l'argent français qui sont sur un compte avec des sous français. Tu leur donnes cet argent.
Ah si, ça peut être un coffre, hein. Ça peut être un coffre, bien sûr, Pierre.
Les gens qui ont des comptes en Suisse.
Il a l'air de s'y connaître.
Les gens qui ont le compte en Suisse sont des jeux d'écriture. C'est pas des billets qu'on amène et qu'on met dans
des coffres. Non, Pierre. Ou des coffres.
Ou des coffres. Il fut un temps où les gens passaient.
C'était quoi le nom de la valise? Attention, pas tout le monde en même temps.
Les gens allaient en Suisse et donnaient cet argent à leur banquier.
Non, pas forcément.
Et leur banquier disait, voilà, vous possédez dans la monnaie que vous voudrez l'équivalent de tant d'argent. On gardait pas les billets tels qu'ils étaient. Enfin,
t'as pas vu les films avec les dialogues de Michel Audiard, le blanchiment d'argent et tout ça.
Comment vous savez tout ça, Pierre? Vous avez déjà essayé de passer de l'argent en Suisse?
Mais non, jamais. J'ai jamais eu d'argent.
Il y a au Brésil, il y a quand même un ancien président. Enfin, il y a quelques années, un vice-président quand même qui a gagné. C'est ma femme qui m'a raconté ça. C'est un fait authentique. Il a gagné 224 fois au loto. Dans la même année. Donc on lui a dit, c'est quand même bizarre. Il a dit non, j'ai de la chance. Et en fait, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il rachetait tous les billets gagnants pour que ça lui fasse une rentrée officielle d'argent. Et donc il payait plus cher le billet. Ah. C'était une méthode pour blanchir l'argent.
C'est ça, Bernard Tapie, ce qui m'est arrivé il y a deux jours.
En tout cas, c'est une technique discrète.
Tout à fait.
224 fois. Ouais.
Bernard Tapie, tiens, venons-en à lui justement, puisque on murmure que finalement, puisqu'il a annoncé qu'il pourrait s'intéresser à nouveau à la politique, et eh bien que le Parti radical de gauche pourrait avoir un candidat à 2005 à l'Élysée qui serait Bernard
2007.
Tapie lui-même. J'ai dit quoi, 2005 2007,
oui.
Pardon, oui, 2005, c'est
vous
cette année.
Vous êtes pressé.
Oui, je suis pressé. Ah, je suis pressé de vivre ça, cette course à l'Élysée. Vous pensez que vraiment c'est possible? Qui c'était le candidat en 95, pardon, en 2002, décidément, j'ai dit mal, avec les présidentielles. Qui c'était candidat du Parti radical de gauche en 2002? C'était Christiane Taubira?
C'était Taubira, il me semble.
Ah, c'était Christiane Taubira.
Oui, qui avait été adoubée par le monsieur Baillet.
Elle est super connue des gens comme moi.
Bah, c'est sûr que Bernard Tapie aurait des chances de faire plus de voix que Christiane Taubira pour le Parti radical de gauche.
Oui, Taubira, on a fait suffisamment à l'époque pour faire jouer Jospin.
Quelle est la ligne politique du Parti radical de gauche? Parce que alors, je ne sais même pas c'est quoi leur ligne de
politique. D'être différent du Parti radical de droite, surnommé le Parti radical valoisien.
Ouais, mais c'est quoi leur ligne politique? C'est quoi, enfin? Ben, moi, je vois pas.
C'est en dessous de la Loire, quoi. C'est... Non, c'est vrai que l'idéologie radicale. Non, mais c'est un très vieux parti dans la tradition française et qui
c'est le parti des Édouards.
Les Édouards.
On comprend toujours pas. Là,
Hériot,
ce que vous
voulez nous dire.
Édouard. Ouais. Alors, quand il y avait Édouard Daladier, il y avait Édouard Hériot, Édouard.
Mais on les connaît pas, donc ça nous explique toujours pas.
Non, je sais pas. Si tu attrapes un bouquin qui vole par là, tu vas voir. c'est des gens. Tu sais, Daladier, ça a été un président du Conseil.
Édouard Hériot un peu aussi. Quand même, moi aussi.
Non, enfin, c'était le.
Pas Édouard Daladier, pas tous les Édouards.
Il faut reconnaître que. Non, c'est vrai que le corpus. Le idéologique parti... du Parti radical n'est pas
a cessé vers 1937, comme ça. Puisqu'après le Front populaire, justement, Blum s'était démarqué.
Après le Front populaire, Blum.
Bah, en tout cas, si le Parti
radical. Plus merde. Moi non plus, je sais pas.
Oui, quand on sait pas, on se tait d'abord. Vous êtes incapable, ni vous, ni Christine Ockrent, de nous dire un petit peu quelles sont les idées du Parti radical de gauche.
Le Parti laïque.
Mais les autres en quoi il est radical? Radical, c'est fort comme mot, ça.
Ouais.
Non, mais le Parti radical, c'est un vieux parti. C'est un parti qui, dès le cartel des gauches, avant la guerre de 14, déjà un parti très important. Et après ça, il y a eu la création et de la SFIO et du Parti communiste. Et tous ces toutes
t'en
ces
gauches. T'en meurs pas, c'est le parti ananar maintenant, puis voilà.
Et toutes ces formations de gauche ont fait cette gauche qui était plurielle avant la lettre. Et après, quand Mitterrand est arrivé, il a fait la réunion des gauches avec le programme commun où il y avait le Parti communiste de Georges Marchais, le Parti radical de M. Fabre et le Parti socialiste de M. Mitterrand.
Je préfère quand il chante.
Mais en fin de compte, le Parti radical...
Mais si t'as une chance d'être moins bête un jour dans ta vie, écoute-moi.
J'ai senti que j'avais réveillé la bête.
Je suis pas sûr que tout ça va leur donner plus de voix, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que si Bernard Tapie est leur candidat, ça va réveiller le parti, Christine
Ockrent. On va voir s'il continue à jouer dans les séries policières pour TF1.
Non, mais ce sera forcément plus médiatisé.
Mais rien n'est plus dangereux que des leaders dans les formations de gauche ou de droite, parce qu'ils affaiblissent le candidat, le locomotive, Et vous avez vu ce qui s'est passé, que Chirac est arrivé au deuxième tour, enfin à la fin de la sortie du premier tour avec assez peu de voix, que Jospin en a eu très peu puisqu'il a été battu par Le Pen. Grâce, si on peut dire, ou à cause
de la multiplicité,
c'est-à-dire de M. Chevènement, de Mme Taubira, maintenant, qui ont pris Besançon, beaucoup, qui ont pris beaucoup de gens à gauche. Alors, si Tapie arrive, et comme ça, le deuxième tour se jouera à 15 ou 16 points, celui qui aura 15 ou 16% sera au deuxième tour. Si on prend au candidat socialiste, si Tapie lui prend des voix, si Besançon lui prend des voix, si machin, et on va encore se retrouver dans une...
Alors marquer un match Tapie-Le Pen au deuxième tour, avouez que ça aurait...
Là, il y en a déjà eu. Hein.
Et c'est bizarre, Tapie, on le voit... Moi, j'imagine plus à l'UMP qu'au Parti Radical de gauche.
Il a été ministre de Mitterrand, quand même, Tapie, comme tout le
monde. Oui, mais je sais, mais c'est, pour moi, c'était un homme de droite. C'est pas, j'arrive pas à comprendre qu'il soit à gauche, cet homme. Enfin, je sais pas, par ses affaires, par Adidas, un homme d'affaires. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a géré des entreprises, etc. Alors, je ne comprends pas qu'on soit...
Il y a différentes sortes de Tapie. Si vous aviez fait les mondiales moquettes... On se retrouve après la pub.
Parlons-nous.
Parlons-nous.
Attention, on va se gêner jusqu'à 18h. Ça parle politique, là. À cause de Bernard Tapie, on est parti dans la politique. J'ai envie d'y rester dans la politique, mais la politique familiale, à un échelon très, très local. Je sais pas si vous avez lu ce qui s'est passé à Puteaux. Charles Secaldi-Reynaud, ça vous dit quelque chose, ouais. Certainement, Christine Ockrent, ancien sénateur, maire de Puteaux, a dit à propos de sa propre fille Joëlle, à qui il avait confié son fauteuil de maire ces derniers mois suite à des problèmes de santé, qu'il fallait maintenant qu'elle lui rende son fauteuil de maire. Et elle refuse de rendre à papa le fauteuil de maire. Et lui, il dit, je l'ai vu à l'œuvre, elle est nulle. C'est quand même terrible entre un père et sa fille.
C'est charmant. C'est drôle.
Ouais. Ça pourrait être une nouvelle série sur TF1, ça.
Ben c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même c'est la zizanie, d'ailleurs. On se rappelle du film de Claude Zidi entre Annie Girardot. Là, c'était entre un homme et sa femme. Ouais, Annie Girardot écolo contre Louis de Funès qui voulait récupérer son siège de maire. Mais là, c'est entre un père, et sa fille. Il ne doit pas être tout jeune, Charles Secaldi Reynaud, en même temps. Hein.
Pourquoi la fille est déjà âgée?
La fille est déjà âgée. Oui.
Si la fille a 60 ans, le père n'est pas tout jeune.
À propos de mère et de fille, pas de père et de fille, mais de mère et de fille, il y a une émission ce soir, je crois, qui va faire grand bruit, où c'est des mères et des filles qui sont ensemble et qui racontent leur aventure commune. Il y a une certaine Fabienne et sa fille Priscilla qui racontaient leurs aventures dans le Parisien de ce matin. C'était croquignolé, c'est atroce, quoi.
Je comprends pas ce que vous voulez dire. Là, expliquez-nous. Parce que
il y a une émission à 8h ce soir où mère et fille se lâchent, comme ils disent. Et il paraît que c'est quelque chose d'affreux.
C'est sur quelle chaîne?
Il me semble que c'est sur M6.
M6, voilà, c'est ça. On va casser l'audimat, elles disent.
Vous n'aimez pas ça, ça vous...
Je trouve que c'est honteux. On peut faire n'importe quoi, mais aller avec sa fille, ou sa mère, ou son père, déjà, la télévision est assez dégueulasse quand ils font des trucs comme ça, mais quand ils font des membres de la même famille qui sont là, c'est vraiment les partous du quart monde, quoi. C'est horrible.
Ah oui, elles ont même dit, on va faire péter l'audimat. C'est plus élégant, quoi.
Mais elles font quoi? Racontez-nous, Caroline, dites-nous, parce que là, moi, je suis largué.
Vous parlez
d'une émission dont je ne suis absolument pas au courant. Alors là.
Non, mais tu résumes si bien.
On vous le racontera demain.
Vous voulez pas que je vous dise? Fabienne, 48 ans, gardienne de résidence, et sa fille Priscilla, 20 ans, coiffeuse, ont semble-t-il marqué le programme de leur empreinte, ce qu'elle ne nie pas.
Tu me répètes tout ça parce qu'on n'a rien compris. Hein.
Quand ça pète, reconnaît Fabienne, mais quand c'est bien, c'est super. On est franche, admet simplement Priscilla, et ça va se voir. J'ai peur de l'image que je vais donner, craint Priscilla. Tu me saoules, a-t-elle lancé à sa mère sur le plateau. C'est pas méchant, c'est juste lâché, intervient Fabienne. On nous a dit d'être nature, c'est ce qu'on a fait. J'aurais voulu tenir ma langue, répond Priscilla. J'ai fait comme si j'avais pas de caméra, j'ai enchaîné les gaffes. J'aimerais pouvoir effacer les séquences, dit sa fille.
Mais quel est le sujet?
Mais ils ont pas fait péter l'audimat.
Passez-moi le journal, je vais vous expliquer dans quelle émission c'est, parce qu'il est incapable de lire un journal, Pierre Bénichoux, manifestement. C'est fou, ça. Moi, je suis capable, quand même, je fais ça toute la journée, de lire des journaux sans avoir lu les articles avant. Alors, je vais vous le faire. Maintenant, c'est dans quoi, ça? Alors, dans Mère et fille, l'expérience inédite. Déjà, si vous nous donnez le titre de l'émission, ça nous donnera peut-être un aperçu de ce que ça peut être. C'est sur M6 à 20h50. Mère et fille, l'expérience inédite. Et donc, il s'agit effectivement, ce soir à 20h50, pour des couples fusionnels, équilibrés ou explosifs, de se réunir et de témoigner. Et là, effectivement, on nous donne l'exemple d'un couple mère-fille qui, manifestement, ne peut plus se séparer. Voilà. Et elles veulent faire péter l'audimat. On ne reconnaît pas la mère de la fille, d'ailleurs. Peut-être celle-là, c'est la mère, la plus vieille. Et ça vous choque, ça?
C'est pas dramatique.
Non, c'est le style.
Oui.
On va faire péter l'audimat, tu me saoules, je me suis lâché.
Mais c'est comme ça que parlent les jeunes aujourd'hui.
C'est des gens qu'il vaut mieux ne pas voir, écoute vraiment.
Bah, t'as quelque chose contre moi, non?
Heureusement qu'il parlait du Faubourg Saint-Germain.
C'est à moi que tu parles, ça?
Bah, Pierre, je vous propose que ce soir vous la regardiez, cette émission, et puis que vous nous en rendiez compte demain.
Voilà.
Hein?
Ah oui.
Non?
Eh ben voilà, t'as tout gagné.
Encore un petit boulot.
En plus, il me donne des devoirs à la maison.
Et si jamais vous ne le faites pas, vous me ferez sans ligne. Allez, on se retrouve de toute façon demain à 16h30. Je vous embrasse. Bye bye. Restez sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est pile 18h. Le 18-20, Pierre-Louis Basse, bonsoir.
Bonsoir, c'est à l'air libre, toute l'info en direct jusqu'à 20h. Je vous donne tout de suite le numéro 01 42 32 14 14. 01 42 32 14 14 pour réagir et tout de suite les titres avant le journal. Hélène Zellani.
Plus d'un million de manifestants dans toute la France, c'est l'estimation des syndicats qui se félicitent déjà d'une mobilisation équivalente à celle de mars dernier. Des manifestations étaient organisées dans toute la France et c'est à Paris qu'il y avait le plus de monde, 150 000 personnes. En ce qui concerne les transports, les perturbations sont conformes aux prévisions, mais il faut noter qu'avec le service garanti, les usagers sont un peu moins pénalisés. Cette grande journée de mobilisation coïncidait avec la rentrée parlementaire. Dominique de Villepin n'a laissé à personne le soin de répondre aux attaques des députés sur le climat social. J'écoute le message que nous adressent les Français, a-t-il assuré. Et puis le démantèlement d'une grosse escroquerie à la carte bleue, la police a réussi à arrêter tous les protagonistes. Sans oublier le foot, Raymond Domenech choisit de ne pas remplacer David Trezeguet, forfait pour les deux prochains matchs des Bleus. Il appelle un petit nouveau qui joue à Bordeaux, Franck Jurietti, pour remplacer Gaël Givet. La bourse, plus 0,6% à la clôture à 4650 points. Et puis demain, encore beaucoup de nuages et d'averses, surtout dans l'Est, mais des températures relativement agréables l'après-midi.
Vous l'avez souligné, Hélène, plusieurs centaines de milliers de manifestants un peu partout en France, plusieurs dizaines de milliers à Paris. Précarité, contrat, nouvelle embauche, le pouvoir d'achat était au centre des cortèges. À l'Assemblée, le Premier ministre s'est dit à l'écoute des Français dès 18h20 avec le ministre de l'Emploi, Gérard Larcher, nous invités, nous reviendrons sur cette journée de revendication. La seconde chance pour une seconde vie, celle d'un homme ou d'une femme qui sort de prison, ce sera l'autre grand dossier d'Aller Libre ce soir. Et puis un grand poète et chanteur devenu populaire sera notre invité, Bernard Lavillier, pour la sortie de son live et de son DVD. Le journal Hélène Zellani.
Et comme prévu, la journée de grève et de manifestation pour défendre les emplois et les salaires a été bien suivie dans toute la France, avec de nombreux rassemblements, notamment à Paris, où, selon la CGT, 150 000 personnes ont défilé entre la République et la nation, 5 fois moins, selon la police. Reportage Fabrice Papillon.
Si tu n'aimes pas Villepin, tape dans tes mains. Si tu n'aimes pas Sarkozy, fais du bruit. Voici quelques-uns des nombreux slogans censés tenser le gouvernement. Des dizaines de milliers de personnes défilent pour l'essentiel sous les bannières de la CGT omniprésente. Ils ont deux leitmotifs, la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat. Une nécessité pour Anne-Marie, infirmière à l'hôpital Corentin-Celton.
Je me bats pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat surtout. Mon salaire stagne depuis une dizaine d'années. Par moment, j'en ai vraiment assez. On ne peut pas soigner les malades correctement. Il n'y a pas assez de monde et on fait le travail vite fait. Faut pas aller du coup des patients, non plus.
Des revendications déclinées pour toutes les professions privées comme publiques, d'Air France à l'Astecma, en passant par les cheminots et même des retraités. Une mobilisation qui galvanise Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, prêt à poursuivre le mouvement.
Si dans les prochains jours, les pouvoirs publics et le MEDEF ne créent pas les conditions pour aborder les revendications qui sont portées dans la rue aujourd'hui, il nous appartiendra d'organiser d'autres rendez-vous coordonnés. La responsabilité des confédérations étant, si le besoin s'en fait sentir, notre volonté d'assurer des suites à cette journée, c'est évident.
Les syndicats ont rendez-vous dans quelques jours pour décider de la suite qu'ils donneront à leur mouvement. Sur la place de la Nation, Fabrice Papillon, Europe 1.
Et ajoutons que François Chérec, pour la CFDT, note une grosse présence des entreprises privées dans les cortèges. Il attend aujourd'hui des réponses très claires sur l'emploi et le pouvoir d'achat. Les syndicats qui ne peuvent être que satisfaits du sondage BVA pour les Échos, selon lequel 72% des Français les soutiennent et trouvent la mobilisation d'aujourd'hui justifiée. En tout cas, c'est ces syndicats, ils crient déjà victoire. Ils estiment avoir réuni plus d'un million de personnes dans les rues d'environ 150 villes, soit autant que le 10 mars dernier. La police, elle, s'en tient à moins de 430 000. On a déjà parlé de Paris, Catherine Marguerite. Alors, quelle a été l'ampleur de la mobilisation en province?
Eh bien, écoutez, sur le 1 012 000 personnes donc recensées par les syndicats, on en trouve 100 000 rien qu'à Marseille, 50 000 à Bordeaux, 30 000 à Toulouse. Et il faut noter que de gros cortèges sont également observés dans les plus petites villes. Un exemple, à Ajaccio, entre 4 et 8 000 manifestants défilent actuellement dans les rues. On a même observé des affrontements entre les jeunes, dont beaucoup cagoulés, et les forces de police.
Alors, il y avait les manifestations, bien sûr, mais aussi les grèves, notamment dans les transports.
Oui, à la SNCF, la grève a été suivie à 32%. Dans le transport aérien, plus de 400 vols ont été annulés. Des retards importants ont également été observés sur la plupart des autres vols en dehors des longs courriers, notamment à Roissy et à Orly. Et puis, les transports en commun sont très perturbés, notamment en province. Des villes comme Toulouse, Marseille, Lyon ont connu des paralysies totales de leur réseau de bus ou de tramway, voire des TER. Ce sera sans doute encore le cas ce soir. Des villes plus petites également sont affectées, Clermont-Ferrand.